Vous écoutez
RMC.
Il est presque 6h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et on retrouve Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu et bonjour à tous.
À la une, Donald Trump dit retenir in extremis ses coups contre l'Iran.
Pas de bombardement ce matin. Il devait pourtant y avoir une attaque surprise américaine, assure le chef de la Maison Blanche, pour qui un accord a de très bonnes chances d'aboutir. Désormais, au moins 12 plaintes en France. Patrick Bruel, de plus en plus cerné par des affaires de viol et d'agression sexuelle. Et des scènes de liesse au Brésil. Neymar officiellement sélectionné pour la Coupe du Monde de foot.
Et Trump continue de souffler le chaud et le froid au Moyen-Orient.
Le chaud, la tension, c'était cette énième menace d'anéantissement de l'Iran. Le froid, le calme, c'est cette annonce. Le président américain explique avoir annulé au tout dernier moment des bombardements d'ampleur romain Hougue.
Oui, des bombardements qui devaient avoir lieu aujourd'hui même, assure Donald Trump, mais qui ont été donc annulés hier soir au dernier moment à la demande des pays du Golfe. L'émir du Qatar, le prince héritier d'Arabie Saoudite et le président des Émirats Arabes Unis aurait convaincu le président américain de mettre sur pause son attaque pour 2-3 jours en lui expliquant que les négociations avançaient bien et qu'un accord, je cite, très acceptable pour les États-Unis pourrait être trouvé très prochainement. Un accord qui doit assurer que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire, rappelle Donald Trump sur son réseau social, sans quoi eh bien, les États-Unis se tiennent prêts à tout moment à lancer une attaque totale et à grande échelle contre l'Iran, prévient le président américain. Réponse du côté de Téhéran, elle vient du chef du commandement de l'armée, les forces iraniennes ont le doigt sur la gâchette. Et le président iranien d'ajouter, dialoguer ne signifie pas capituler.
Dernier bilan aussi humain de la guerre au Liban. Hier, les 3000 morts en 2 mois et demi ont été dépassés selon les autorités libanaises. Les deux assaillants d'une mosquée de San Diego aux États-Unis se sont bien suicidés. C'est ce que confirme la police ce matin. Ces deux adolescents, 17 et 18 ans, ont tué 3 personnes, dont un agent de sécurité qui s'est interposé. Ils ont ensuite été retrouvés mort à proximité des lieux.
La justice se met en marche dans le dossier Patrick Bruel.
Accusé de viol et d'agression sexuelle par de nombreuses femmes, dont l'animatrice Flavie Flamand, qui s'est dite hier sidérée par sa défense. Les avocats du chanteur évoquent une relation consentie, alors qu'elle n'avait que 16 ans à l'époque. Et en parallèle, on dénombre au moins 12 plaintes en France. La plupart vont être centralisées par le parquet de Nanterre, Constance Bostoen.
Oui, la première accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle en juillet 2019, l'autre d'un viol en 2010 chez lui à Neuilly-sur-Seine. Dans ce dossier d'idées masseuses, 4 autres plaignantes avaient aussi déposé plainte, mais la procédure avait été classée sans suite. Elle devrait être prochainement rouverte, tout comme celle concernant un viol que dénonce Ophélie Fachefeur en 2015, alors qu'elle est âgée de 19 ans. À ces 7 femmes s'ajoutent 3 autres qui dénoncent notamment un viol au Mexique en 1997 ou encore des attouchements dans un hôtel de Monaco 3 ans plus tard. Une plainte a également été déposée en 2024 à Saint-Malo. Une autre procédure est en cours en Belgique. La dernière plainte est celle déposée la semaine dernière par Flavie Flamand, qui dit avoir subi un viol quand elle avait 16 ans. De son côté, le chanteur âgé de 67 ans conteste formellement tous les faits qui lui sont reprochés.
Constance Bostoen du service police-justice de RMC. La colère des parents d'une école du 11e arrondissement de Paris. Ils ont appris hier des autorités qu'un animateur périscolaire mis en examen pour agression sexuelle avait déjà fait l'objet d'une plainte 2 ans plus tôt, mise en cause par une fillette d'un autre établissement. Tous les détails dans le journal de 6h30.
Le début de l'heure de vérité pour le projet de loi d'urgence agricole.
Censé répondre à la colère du monde paysan. Elle est examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec au programme des mesures qui s'annoncent clivantes, Sonia Gobry.
Au cœur des crispations, les questions de l'élevage et de l'eau. La gauche accuse le gouvernement de lever tous les garde-fous pour favoriser la création de fermes-usines et de méga-bassines. Insoumis et écologistes promettent de batailler contre ce qu'ils qualifient d'offensive contre l'écologie. À l'autre bout de l'hémicycle, le RN veut réintroduire l'acétamipride, cet insecticide dit tueur d'abeilles qui a été censuré par le Conseil constitutionnel au moment de la loi du plomb. Sébastien Lecornu cherche donc à éviter ce débat brûlant. Il propose de traiter la question des pesticides plus tard, pour, dit-il, ne pas prendre en otage l'ensemble du projet de loi d'urgence agricole. Les oppositions y voient une ruse et soupçonnent l'exécutif de vouloir écarter les sujets qui fâchent à l'Assemblée pour laisser ensuite la main au Sénat, plus favorable et moins divisé sur ce texte.
Les pesticides, justement, au cœur d'une alerte de l'ONG Foodwatch ce matin. Riz, épices ou encore thé, sur 15 produits testés, 12 contiennent des produits interdits dans l'Union européenne.
Alors, est-ce qu'il faut faciliter l'installation des fermes-usines? La question des méga-bassines aussi dans ce texte qui arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Est-ce que plus généralement, il faut lever les verrous dans le monde agricole? Vous nous le dites ce matin au 3216 et sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424.
Un petit garçon sauvé par un vaste élan de solidarité.
Elio, 4 ans, atteint d'une leucémie rare et foudroyante. Son histoire avait ému la France entière. L'appel de son père pour un don de moelle osseuse avait même été relayé par Emmanuel Macron et Rachel Sadedine. Ça y est, un donneur a été trouvé.
La guerre contre la leucémie n'est pas encore gagnée, mais déjà le soulagement est immense pour Thomas. Le père d'Elio témoignait hier soir sur France 2.
Il est super en forme, il est prêt pour y aller et pour que cette balle fonctionne pour lui, ça va être un super moment.
Une poche de cellules va être transfusée à Elio dans les prochains jours, mais avant ça, le petit garçon va devoir subir
une chimiothérapie assez lourde et une radiothérapie aussi, en plus qui va lui permettre d'accepter ensuite cette greffe.
Une greffe dont le succès n'est pas garanti. Le donneur n'est pas compatible à 100%, mais le père d'Elio reste optimiste et remercie les milliers de donneurs qui se sont mobilisés. Depuis son appel il y a un mois et demi, le nombre de préinscriptions enregistrées pour des dons de moelle osseuse a déjà dépassé celui de l'année dernière.
On est très content que cette solidarité qui a pu servir pour Elio puisse servir à plein d'autres. Et d'ailleurs, elle va servir puisque maintenant, avec tous ces nouveaux donneurs qui se sont inscrits, on espère que vraiment ça va pouvoir guérir plein de monde.
2500 malades sont toujours en attente d'un don pour les aider. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet dondemoelleosseuse.fr.
Rachel Sadedine pour RMC. Le sport et un match complètement dingue en NBA. C'est du basket. C'était le premier match de la série des finales de Conférence Ouest. C'est l'équivalent des demi-finales sur la route du titre avec un Français, un Victor Wembanyama dantesque. 41 points, 24 rebonds dans la victoire de ces San Antonio Spurs contre l'Oklahoma Thunder, les champions sortants. Tout ça après deux prolongations. Lui, ce sera assurément sa dernière. Neymar a été sélectionné pour participer avec le Brésil au prochain mondial de foot. Julien Richard annonce de la liste, fin du suspense, quasiment fêté comme une victoire en finale.
Oui, on est loin de Didier Deschamps dans le journal de 20h. Une scène immense dans un musée de Rio, 1200 invités, 700 journalistes et tout un pays qui s'arrête pour écouter Carlo Ancelotti égrener les noms des sélectionnés et mettre fin au suspense.
Neymar Junior Santos.
La salle explose de joie, des chants à la gloire du meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne oblige même Carlo Ancelotti à stopper son annonce pendant de longues secondes. Plus de 3 ans que l'ancien numéro 10 du PSG n'avait plus été appelé en équipe nationale, la faute notamment à une cascade de blessures ces derniers mois. Il joue de nouveau, sa condition physique s'est améliorée, a justifié l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui avance également son expérience. Ce sera un joueur important pour cette Coupe du Monde. Un joueur important mais plus avec le même style. Statut. Je veux être clair et honnête, il jouera s'il mérite de jouer, le terrain va décider. Neymar a le même rôle que les autres, aider la Seleção à gagner la Coupe du Monde. Je ne veux pas de stars, juste des joueurs présents pour aider l'équipe. À 34 ans, Neymar en tout cas réussit son pari et disputera sa 4e Coupe du Monde.
Et vous n'en manquerez rien, RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de foot. Les 104 matchs, tous commentés en direct, et donc forcément ceux du Brésil aussi.
Notamment ceux du Brésil qu'on suivra évidemment. J'ai Jean-Pierre qui nous écrit régulièrement depuis la Chine ce matin, qui nous dit « Neymar, ça me fait penser à la mascotte nationale qu'on emmène pour le bon vivre le bon vivre du groupe ». Bon, après ça peut fonctionner, il dit « On a bien eu Adil Rami en France, l'important c'est que les titulaires soient en forme et bien mentalement ». Non mais c'est important le vestiaire.
Oui, oui.
D'avoir un cadre de vestiaire, d'avoir quelqu'un
moins
qui est ambiance.
Moins technique qu'Adil Rami quand même.
Moins technique que Neymar.
Plus technique sur l'ambiance, mais moins technique.
Et sur la moustache aussi. Que monsieur est connaisseur, Victor Ponchet. Merci Victor. Il est 6h08 sur RMC.
Et on part tout de suite au 32-16, rejoindre Richard qui nous appelle depuis Ris-Orangis en Essonne. Bonjour Richard.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
Richard, vous êtes motard et vous souhaitiez réagir aux chiffres qu'on donne ce matin. Un tiers des motards qui ne respectent pas les limitations de vitesse. C'est votre cas ?
Oui, bah après, comme je disais au standard, en fait, nous motards, on essaie de, tant bien que mal, de se faufiler, de rouler. Effectivement, quand on a une moto dans les mains, moi j'ai une S1000 XR, ça envoie 170 chevaux, bien sûr, mais tout en restant prudent. Mais c'est plus fort que nous, ouais, on a ça dans les mains, malheureusement.
Ça pousse vite, enfin, ça monte fort et assez rapidement, Richard.
Ça monte fort et très rapidement. Mais bon, quand on voit tous les gens qui sont autour de nous, Moi, je le vois ce matin. Moi, je prends la moto, je fais 20 000 km par an avec la moto. Ouais. J'ai que ça, moi, j'ai pas de voiture, j'ai qu'une moto. Mais quand je vois les gens qui sont autour de moi, en fait, la moto ne fait pas peur, en fait. C'est les gens qui sont autour de nous. Surtout maintenant que le téléphone, c'est une catastrophe.
Alors moi, ce que j'apprécie, Richard, alors pour le coup, ça revient très souvent dans les messages ce matin, la question du téléphone. Je le disais en souriant parce que ça revient à chaque fois qu'on a un débat sécurité routière en ce moment. C'est vraiment le fléau du moment, on en parle souvent. Et ça, quand on est à moto, un automobiliste qui fait pas attention, qui dérive parce qu'il est en train de regarder son téléphone, c'est extrêmement dangereux, bien sûr. Après, je vais apprécier l'honnêteté des motards ce matin, parce qu'en général, quand on a un débat sécurité routière, c'est pas ma faute, c'est les autres. Là, vous avez tous l'honnêteté de dire que oui, bah 33% qui reconnaissent aller un peu vite. Bah en fait, c'est un peu plus quand même, Richard. C'est ceux qui reconnaissent.
Je l'avoue, j'en vois. Qu'il pleuve ou qu'il vente, parce que je vous dis, je prends la moto tous les jours. Donc, encore hier, sous la pluie, ça m'empêche pas de rouler à 150 km/h. Moi, j'ai confiance en ma moto. Donc, mais moi, c'est les gens autour de moi qui vont peur.
Ouais, 150, c'est un excès de vitesse de 40 hein, sous la pluie. Hein. C'est
oui, 110, bien sûr.
Pardonnez-moi, Richard, je ne vais pas vous engueuler. Vous avez l'honnêteté de nous appeler et de nous dire les choses telles qu'elles sont sur la route. Et je vous en remercie, Richard, d'ailleurs. On a quand même aussi 8 motards sur 10 qui reconnaissent qu'ils se sentent plus exposés que les autres au danger de la route aussi. Merci, Richard, de votre appel au 32-16 ce matin.
Il est 6h10 et c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde 2026. Vidéo projecteur, écran, barre de son, maillot de bleu, des bleus, baby-foot. Il y a la totale. Venez sélectionner un joueur dans la liste des 26. Et pour ça, vous envoyez liste au 732-16. Liste au 732-16. Vous avez 5 minutes. Là. Il est 6h11. Là, on y passe. Ouf. Donc jusqu'à 6h16.
Wow. Ouais. Parti.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Bonjour Solène Leroux.
Bonjour à tous.
Alors, on va parler de la galère du relogement après une séparation.
Et plus de conjoints, plus d'appartements, c'est la double peine. Et ça ne concerne pas que les plus démunis, les classes moyennes aussi, vous le verrez.
Votre enquête, c'est dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Je me permets, hein, les packs cadeaux Coupe du Monde, il vous reste 1 minute 15 pour envoyer liste au 7-32-16. Très bon réveil à tous avec RMC.
RMC, le choix de la rédaction.
Et on va parler d'un sujet hautement concernant ce matin, la galère des couples séparés pour se reloger. C'est avec vous qu'on en parle, Solène Leroux, bonjour.
Bonjour Élise, bonjour.
Alors, quand on se sépare, on le sait, hein, on perd en pouvoir d'achat et vu les prix des loyers à l'heure actuelle, c'est même parfois très compliqué de retrouver un logement, tout simplement.
C'est la double peine. À la douleur de la séparation se mêle le stress de devoir se reloger. Alors beaucoup se retrouvent à bricoler, ils cohabitent avec leur ex, retournent chez leurs parents, sont hébergés chez des proches, vont de sous-location au Airbnb et tout ça parfois avec des enfants. C'est ce que vit Fabienne, 39 ans. Elle devait garder l'appartement acheté avec son ex-conjoint, mais 2 ans et demi plus tard, ce n'est plus possible financièrement. Elle doit trouver une location.
J'ai vraiment pas un bon dossier. Je suis maman solo, j'ai 3 enfants, je suis entrepreneur donc indépendante. J'ai une résidence alternée en place avec le père de mes enfants, ce qui suppose donc de vivre dans un périmètre géographique extrêmement réduit. Et 3 enfants, donc aussi un besoin de surface correcte. Même avec des revenus tout à fait corrects, c'est très difficile de se loger tout seul. C'est maximum 800 € pour 4 en Ile-de-France. Proche Paris. Bah, c'est même pas possible en fait. Concrètement, mon seul et unique espoir aujourd'hui, c'est d'obtenir un logement social.
Mais elle reste lucide vu le nombre de demandes pour des HLM. Près de 3 millions sont en attente. Bah, ça ne sera pas facile non plus.
Mais pourtant, Fabienne le dit elle-même, Solène, elle a des revenus corrects.
Oui, 2 400 € par mois. Et en fait, c'est le sentiment de plusieurs personnes avec qui j'ai échangé. Des gens de la classe moyenne qui se retrouvent coincés, finalement pas assez pauvres pour bénéficier d'aide, pas assez riches pour se reloger facilement. Ce qui amène à des dérives d'ailleurs. Il y en a qui truquent leur fiche de paie, d'autres qui s'inventent un conjoint. Certains se tournent parfois vers des associations comme Moi et mes enfants. Olivia Barreau, sa fondatrice, explique comment elle accompagne concrètement ces familles.
Remplir un dossier d'aide à un logement social, mettre en lien avec différents bailleurs. On a créé un programme qui s'appelle Toi, TOIT, et tes enfants. C'est à la fois pour l'accès à un logement digne et à la fois sur des réflexions d'habitat partagé pour les familles monoparentales.
Ça, c'est une solution plutôt originale, en fait. Regrouper plusieurs parents solo dans un même espace avec cuisine partagée, mais chacun sa chambre. L'association recherche encore des locaux pour les mettre en place, mais d'autres collectifs comme Pose-toi le proposent déjà et ça fonctionne.
Sauf qu'on imagine bien qu'ils peuvent pas répondre à la demande.
Ouais, c'est ce qu'on m'a beaucoup répété. On ne peut pas tout faire. Ceux qui peuvent faire la différence, en fait, ce sont les propriétaires déjà. Car pour le moment, derrière un dossier de location sur 4 dans les grandes villes, il y a une famille monoparentale et très peu sont acceptés. Les propriétaires, par sécurité, privilégient en fait les familles avec 2 salaires. N'empêche qu'ils ne sont pas les seuls responsables. L'État aussi doit s'engager, dit Colombe Brossel, sénatrice PS de Paris.
Avec une crise du logement qui est à un niveau jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une question en termes de pouvoir d'achat qui est majeure, avec une hausse des niveaux de pauvreté et qui touche principalement les familles monoparentales, il faudra que la question des familles monoparentales, la question des parents solos, la question des mères solos, elle soit au cœur des débats de la présidentielle.
Et l'élu portera ce combat aux toutes premières universités d'été de la monoparentalité en août, car avec 1 famille sur 4 concernées, elle insiste, il est primordial de les prendre en compte et aussi pour éviter, c'est une réalité que certains restent avec leur conjoint uniquement parce qu'ils ne peuvent pas retrouver de logement.
Bien sûr que c'est une réalité et d'ailleurs c'est même souvent un point de départ au moment de la séparation, cette partie cohabitation, vous voulez en témoigner, vous n'hésitez pas au 32-16, de la difficulté de se reloger. Vous serez les bienvenus en direct avec nous, évidemment, ce matin. Il est 6h18.
Et on va accueillir Eddy au 32-16. Bonjour Eddy.
Bonjour.
Eddy, vous souhaitiez réagir sur notre sujet depuis ce matin, à savoir les cours d'éducation financière au collège, et vous trouvez que c'est une excellente idée.
Oui, je pense que c'est une excellente idée. Tout à l'heure, bon, j'ai pu écouter votre intervenant et puis la réaction de Mathieu sur la mise en place d'un
Marc Mazière de Radin Malin, ouais. Ah, ouais, sur l'argent de poche. Ouais, j'étais un peu surpris par le montant, 50 euros tous les mois à 12 ans.
Tout à fait, tout à fait. Bah, moi aussi, j'ai un petit peu été surpris, mais toutefois, je pense que.
Vous faites comment, vous, Eddy?
Eh ben, moi, j'ai mis en place depuis l'année dernière, mon fils en troisième, j'ai mis en place l'argent de poche à hauteur de 7 euros par semaine, 1 euro par jour. Et effectivement, pour moi, ça a été l'opportunité de parler d'argent avec mon fils. Et donc, lui, je lui ai expliqué le fonctionnement de son compte courant. Voilà. À travers ça, il n'avait plus besoin de me demander pour aller au cinéma avec ses copains, pour aller s'acheter un sandwich avec ses amis. Voilà. Je l'ai rendu autonome de ce point de vue-là et donc de gérer son budget mensuel. Et je lui ai mis en place également un livret A. Et donc, je lui ai expliqué que dans son budget d'argent de poche, eh ben, il pouvait en conserver pour ses loisirs et il pouvait aussi mettre de côté en mode petit écurie en lui expliquant comment fonctionnaient les intérêts, à quel moment ils étaient rémunérés, etc. Et de là, en fait, j'ai juste allumé une étincelle chez lui, il s'est pris de passion et a recherché les performances financières sur tout ça, à tel
maintenant
point qu'aujourd'hui...
Maintenant, il veut devenir trader ?
Ouais, alors bon, ça c'était un peu, il s'en était plutôt dans l'informatique et oui, un peu, bon, avec l'image que ça dégage, c'est plutôt un peu surprenant, enfin un peu inquiétant pour un parent, mais effectivement, il s'oriente plutôt vers cette filière académique, en tout cas maintenant, dans le domaine de la finance. Et c'est lui qui me conseille aujourd'hui, il s'est documenté,
c'est ça qu'il faut que je fasse en fait, c'est eux qui vont me conseiller après. Mais merci Eddy, vous avez raison, mais en tout cas on voit que ça porte ses fruits, qu'on peut aussi les intéresser, rendre ça extrêmement concret, puisque c'est son budget, son argent de poche, sa gestion, sa façon de le mettre de côté. Merci Eddy, hein, depuis l'Essonne au téléphone ce matin, cadre qui témoigne de ce qu'il a mis en place pour ses enfants, l'éducation financière dès la 4e, ce sera au programme l'année prochaine. Comment est-ce que vous procédez à la maison? Tiens, vous nous le dites aussi au 32-16 ce matin, 6h21. Wow.
Ouais, c'est dur.
Ça marche à tous les coups.
Allez, sortez les smokings et les Aston Martin. La chasse au prochain James Bond est officiellement lancée. Après des années de rumeurs, Amazon MGM Studio l'a confirmé. Les auditions ont commencé. Le successeur de Daniel Craig est quelque part dans la nature. C'est peut-être vous qui sait. Chez la perle rare, les producteurs ont sorti l'artillerie lourde en confiant les clés du casting à une légende, Nina Gold. Son nom ne vous dit sûrement rien, mais ses choix ont façonné toute la pop culture de ces dernières années. C'est elle qui a assemblé le puzzle de Game of Thrones.
Ah ouais, un joli casting pour le coup.
Pas mal. On lui doit aussi certains opus de Star Wars. Quand je vous disais que c'était une légende, c'est une légende. Et on la retrouve aussi derrière The Crown ou encore les films Conclave et le discours d'un roi. Aux manettes de ce nouveau James Bond, on retrouvera Denis Villeneuve, le papa de Dune. Et je vous donne quelques noms pressentis, Jacob Elordi, Callum Turner et Aaron Taylor-Johnson. Mais moi, j'ai une suggestion, Mathieu Béliard. Je suis sûr que vous commandez le martini avec beaucoup de place, Mathieu.
J'ai vu un détail dans cette annonce pour devenir James Bond. Il faut être originaire du Commonwealth, soit anglais, soit du Commonwealth.
Bon, bah,
ce sera pas pour moi.
Désolé.
Ce sera pas pour moi. Pourtant, le martini avec une olive... évidemment.
Et les cascades.
Évidemment. Les cascades, moi je fais ça le matin en me réveillant pour m'échauffer, pour arriver ici 6h22 sur RMC. C'est le smoking qui est plus dur, enfin, on rentre plus dedans. Bref, vous l'avez entendu, il est là, Aurel Gage, dans un instant. Mais d'abord, les trois grands titres de l'actualité avec Élise.
Et c'était une promesse de Sébastien Le Cornu pour répondre à la colère des agriculteurs. Une loi d'urgence avant l'été. Le texte arrive à l'Assemblée aujourd'hui. Il prévoit notamment d'alléger un certain nombre de contraintes administratives et financières. Flavie Flamand, sidérée et sans voix face à la réponse de Patrick Bruel à ses accusations de viol. L'animatrice qui a porté plainte contre le chanteur a donné un entretien vidéo à nos confrères de Mediapart. Et puis après plus de 2 ans d'absence, Neymar a été convoqué hier par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour disputer le Mondial 2026 avec le Brésil.
Il est 6h23. Et le docteur du morning est là. Bonjour Aurel Gage.
Bonjour.
C'est l'heure de la consultation gratuite.
Eh bien, ce matin, on va parler du syndrome des ovaires polykystiques qui change de nom, une pathologie qui concerne énormément de femmes. Et on va essayer de tout comprendre sur ce nouveau nom et pourquoi on l'a changé. Eh bien, son nom.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h26 sur RMC, RMC Story. Viens voir le docteur.
RMC, consultation gratuite.
En ce mois de mai, c'est officiel, une maladie qui touche environ 10% des femmes change de nom, anciennement appelé syndrome des ovaires polykystiques. Il est désormais nommé syndrome métabolique ovarien polyendocrinien, un nom très compliqué. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette pathologie fréquente, Aurel Gage?
Eh bien justement, ils ont changé de nom par rapport à ce que ça décrit, puisque initialement, cette pathologie, c'est d'abord un dérèglement hormonal. C'est un dérèglement hormonal qu'il faut bien comprendre, hein, qui est extrêmement important, puisque c'est la première cause d'infertilité chez la femme. Vous allez avoir un dérèglement hormonal qui va avoir des conséquences eh bien sur les ovaires, qui va faire généralement des troubles eh bien du cycle menstruel et qui va aboutir eh bien justement, vu que vous avez ce changement au niveau des hormones sexuelles, eh bien vous pouvez avoir production de testostérone à faible dose et donc vous allez avoir ce qu'on appelle un hirsutisme, donc une hyperpilosité, des poils dans des zones que vous devriez pas avoir, ou alors
hirsutisme, on dit
hirsutisme.
Ouais, okay.
Hirsutisme, c'est quand c'est dans des zones où on n'est pas censé avoir de poils, et l'hyperpilosité, c'est quand on en a beaucoup en quantité, donc vous aurez généralement les deux. Et cette pathologie, eh bien elle va avec ce trouble hormonal, elle va justement faire dérégler un petit peu la forme de l'ovaire et dérégler vos cycles.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on a changé le nom?
Eh ben justement, parce qu'en fait c'est un nom historique. En gros, on a découvert dans les années 30 des femmes qui avaient des troubles de cycle. On leur a fait une échographie, puis on voit, bah non mais attendez, elles ont des ovaires anormaux. Donc on a dit c'est le syndrome, en gros, des ovaires anormaux. Sauf que la cause première derrière, c'est un problème hormonal. Et d'ailleurs, c'est même aussi pour ça que même au sein du personnel médical, eh bien, il y a de l'errance médicale, parce que pour nous, il faut absolument avoir des ovaires anormaux pour avoir un syndrome des ovaires polykystiques. Alors que non, c'est un dérèglement hormonal.
Et c'est par ce biais-là qu'on le traite.
Et c'est par ce biais-là qu'on va le traiter. Et vous allez avoir besoin de 2 critères sur toi. 3, soit des ovaires anormaux, soit des troubles du cycle, soit ce qu'on appelle une hyperandrogénie, donc la production d'hormones excessives masculines.
Donc ouais. L'objectif, c'est de mieux diagnostiquer, on l'a bien compris. Merci docteur pour cette consultation. Il est 6h29.
Et c'est Dylan qui est en ligne avec nous depuis la Seine-et-Marne ce matin. Bonjour Dylan.
Bonjour Dylan.
Bonjour l'équipe.
Comment ça va?
Bah ça va, super. Hein.
C'est vrai?
Bah
vous avez
oui,
joué au mot caché.
On est toujours bien.
Oui, ah bah attendez, on ne vous a pas encore dit si vous avez gagné, Dylan. Est-ce que vous avez identifié le mot caché?
Alors c'est Orion.
Ah bah vous avez gagné.
Félicitations. Orion avec un H, hein, avec ça veut dire un coup violent. Hein. C'est pas la constellation, on n'était pas dans l'espace. On parlait d'un coup violent, un mot qui sort de l'ordinaire. Vous l'avez identifié, Dylan, et vous repartez avec la station météo Lacrosse Technologies, le leader français des données météo connectées. C'est pour vous, Dylan.
Super, merci beaucoup.
Bravo Dylan et très bonne journée à vous. Journée qui s'annonce encore compliquée côté météo, Géraldine.
Bah, c'est maussade, oui. En tout cas, c'est vrai qu'on va encore avoir. C'est la dernière journée, mais on a une perturbation qui va traverser le pays, qui donne un temps gris avec des pluies généralement assez faibles, hein, mais enfin qui seront quand même là une bonne partie de la journée. Alors, pas mal de vent sur le nord-ouest. On pourra avoir quelques orages cet après-midi entre la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. C'est un soleil voilé entre l'Aquitaine et la Méditerranée, avec une petite averse possible cet après-midi sur les Pyrénées. Les températures repartent à la hausse, ça y est, on commence bien à se rapprocher des normales de saison. Alors, il faut compter 16 à 19 degrés sur la moitié nord, 20 à 24 dans le sud. Et puis dans les prochains jours, on va passer largement au-dessus des normales avec beaucoup de soleil.
Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, le scandale sans fin du périscolaire parisien.
Avec un animateur mis en examen récemment qui avait déjà été visé par une plainte il y a 2 ans. Vous allez entendre la colère des parents des élèves dans l'école concernée. Il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en ligne. On va détailler tout ça. Plus 10% sur un an, c'est une alerte de la CNIL. Et l'Iran en route pour la Coupe du Monde de football en Amérique. Premier arrêt en Turquie pour obtenir des visas.
Et c'est donc un énième rebondissement dans le scandale du périscolaire à Paris.
Oui, on sait depuis ce week-end que le parquet de Paris a ouvert des enquêtes pour de possibles violences dans une centaine d'écoles de la capitale, essentiellement dans des maternelles. Pour vous donner une idée de l'ampleur, il y a des enquêtes qui sont ouvertes dans une maternelle sur 3. 78 agents ont été suspendus depuis le début de l'année. Et la nouvelle affaire concerne donc un animateur récemment mis en examen pour agression sexuelle dans une école du 11e arrondissement et qui avait déjà été mis en cause il y a 2 ans, Pierre Bazin.
Oui, ce sont les agents en charge de l'enquête administrative qui ont révélé aux parents que cet animateur avait déjà été visé par une plainte en 2024 pour des faits d'agression sexuelle sur une fillette. C'est ce que nous rapporte cette parent d'élève qui a assisté à la réunion.
Le temps de l'enquête, il a arrêté de travailler. Ça a duré 6 mois. La brigade des mineurs a conclu à une affaire sans suite. Il a alors décidé de repostuler dans la direction du périscolaire du 11e et du 12e arrondissement.
Les plaintes se sont ensuite multipliées dans les écoles où il a exercé après 2024. Les parents d'élèves sont consternés. C'est le cas notamment d'Éric. Le père de famille a lui-même porté plainte. Sa petite fille était au contact de cet animateur.
Je suis très énervé. Il y a un principe de précaution. Et au nom de ce principe de précaution, cet éducateur n'aurait pas dû être là. On n'a pas fait en sorte qu'il ne récidive pas. Et en cela, il y a un comportement fautif de la mairie de Paris et d'une de ses administrations, celle qui est en charge du périscolaire. Il faut imaginer, nous le soir, on voit nos enfants avoir peur.
Ce soir, c'est à l'ensemble des parents des écoles concernées que les conclusions de cette enquête administrative seront présentées.
La justice étudie désormais 12 plaintes pour violences sexuelles à l'encontre de Patrick Bruel qui conteste l'ensemble des faits. Mais dans le détail, il s'agit de 10 à Nanterre, une à Saint-Malo et celle à Paris qui a été déposée la semaine dernière par l'animatrice Flavie Flamand qui se dit, je cite, sidérée par la défense des avocats du chanteur. On suit cette semaine sur RMC le procès qui se déroule aux assises de Digne-les-Bains, procès d'un homme de 51 ans, ex-employé de banque, jugé pour avoir infligé 7 années de sévices à sa compagne, ex-compagne, Laetitia, 42 ans, maman de 4 enfants, qui dit avoir été frappée, violée et livrée à des centaines d'inconnus en étant prostituée de force. Julie Brault, du service police-justice, RMC, Adine-les-Bains. Premier moment fort donc dans ce procès, c'était hier en fin de journée quand Laetitia a pris la parole pour la première fois.
Oui, les yeux rougis par les larmes, Laetitia décrit comment, au fil des ans, elle a été humiliée, insultée, réduite à une chose par son ancien compagnon. « Je n'avais pas le droit de dire non », dit-elle, avant de décrire la pluie de menaces, violences ou tortures dès qu'elle exprimait son désaccord, à tel point qu'aujourd'hui je suis incontinente, souffle Laetitia. Une séquelle physique directement liée à des pratiques sexuelles extrêmes, selon les médecins. Dans le box des accusés, son ancien compagnon soutient que leur relation était sadomasochiste, mais consentie. « Nous avons pris du plaisir », dit-il. Pourtant, à plusieurs reprises, elle vous a écrit « Je n'en peux plus, j'ai peur » ou encore « J'ai mal », rétorque l'avocat de Laetitia. Elle s'était dit dans le contexte de nos jeux sexuels « Elle ne m'a jamais clairement dit non », maintient l'accusé, impassible avant de se rasseoir.
Il est 6h34 sur RMC et il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en France.
Alors on en parle tous les jours et on s'en doutait avec les cyberattaques à répétition. C'est donc la CNIL qui a enregistré plus de 6000 notifications de violations de données en 2025, chiffre en hausse de 10% sur un an. Et dans la moitié des cas, eh bien, c'est lié à des piratages, Amélie Courté.
Oui, personne n'est épargné, souligne la CNIL, des fédérations sportives en passant par Free jusqu'au ministère de l'économie. Des fuites de données personnelles de plus en plus massives, note le rapport. Bien souvent, la faille est à trouver chez les prestataires avec des systèmes de sécurité plus vulnérables. Si les attaques se multiplient, analyse la CNIL, c'est d'abord parce que le vol de ces données est rentable, mais aussi parce que ces attaques sont de plus en plus faciles à mener grâce au développement de l'intelligence artificielle. Alors, face à la hausse des cyberattaques, la CNIL promet de renforcer ses contrôles et ses sanctions, mais elle invite également les utilisateurs à adopter une bonne hygiène numérique, ne pas cliquer sur les liens douteux, avoir des mots de passe robustes, une vigilance qui doit être permanente car les tentatives d'escroquerie interviennent souvent plusieurs semaines après le vol de données.
L'info de la soirée en football, c'est Neymar. Qui jouera la Coupe du Monde avec le Brésil, sa quatrième? Il est rappelé à 34 ans et après 3 ans d'absence en sélection. Carlo Ancelotti, qui est à la tête du Brésil, a été coupé carrément par les cris de la foule quand il a prononcé le nom de l'ancien Parisien hier soir. L'équipe d'Iran, elle, sera une des équipes les plus suivies de ce mondial en Amérique dans le contexte actuel. Elle est déjà en route d'ailleurs pour les États-Unis à Nicolas Pelletier en faisant une escale en Turquie.
Oui, les 22 joueurs iraniens sont rapidement montés dans un bus à la sortie de l'aéroport et devant une nuée de caméras et de nombreux policiers. À Antalya, en Turquie, le groupe iranien doit aussi effectuer des démarches liées à l'obtention des visas pour se rendre aux États-Unis. Téhéran et Washington n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980. Pour le moment, l'administration de Donald Trump n'a délivré aucun document officiel pour cette sélection, alors que la compétition débute dans moins d'un mois. Lors d'une grande réunion avec la FIFA ce week-end, les dirigeants de la fédération iranienne ont obtenu des garanties sur le nombre de visas qui sera délivré. Un groupe iranien qui se déplacera sans sa star, Sardar Azmoun, exclu du groupe pour trahison. Selon des médias locaux, il aurait commis un acte perçu comme déloyal envers le pouvoir en place.
Des nouvelles tiennent de Victor Wembanyama, qui a été encore impressionnant cette nuit en NBA aux États-Unis, inscrivant 41 points pour les Spurs de San Antonio, combattu Oklahoma City 122-115. Ça, c'est le résultat. C'était la première manche de la finale de conférence Ouest.
Et on reparle ce matin du joueur de tennis Corentin Moutet aussi.
Oui, alors on ne sait pas trop ce qui lui est passé par la tête hier pendant un match de tennis, donc au tournoi d'Hambourg, à Eric Salio, puisqu'il a, et tout ça est vrai, il a baissé son short en pleine rencontre.
Oui, la scène est pour le moins surprenante. Opposé sur un petit court annexe à Hambourg à l'Espagnol Davidovich Fokina, le Parisien se dépouille pour remettre 3 balles compliquées avant d'être pris par un passing à la stupeur. Il baisse son short jusqu'au mollet avant de le remonter illico. Est-ce un hommage à Marat Safin qui avait agi de la sorte à Roland-Garros en 2004? On l'ignore, mais l'arbitre le sanctionne logiquement d'un avertissement pour obscénité. Corentin Moutet est un garçon instinctif, adepte du service à la cuillère. Il avait raté un improbable coup entre les jambes l'an dernier à Bologne sous le maillot de l'équipe de France de Coupe Davis, un geste inconsidéré alors que son adversaire avait déjà fait une croix sur le point. Se baisser de short est évidemment moins dangereux que de balancer sa raquette à l'extérieur du cours, comme il avait fait dans un challenger aux États-Unis il y a 2 mois, mais ça n'arrange clairement pas son image.
C'est pas faux, c'est moins dangereux de baisser son short que de jeter sa raquette à travers le cours. Ça c'est factuel.
Oui.
C'est audacieux, cela dit. Merci beaucoup, Quentin Binet. Dans les courses, quand même, avant de finir, c'est à Chantilly aujourd'hui.
13h50, les pronos de la Dream Team, le 7, le 5, le 7 en favori, Sauce Po, et le 5 en outsider, See You King.
Merci Quentin, il est 6h37 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, une étude qu'RMC révèle en exclusivité.
Les motards qui se disent prudents, mais 1 sur 3 avouent dépasser les limitations de vitesse. Et ils sont la moitié à utiliser le téléphone au guidon.
Bonjour Jean-Marc Bellotti.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère. On va parler de ces chiffres avec vous. Les motards sont-ils des chauffards comme les autres? On va vous poser la question dans un instant et vous allez y répondre. Et puis elle est là, la bande du morning.
Virginie Fulpin pour la causerie.
Neymar va donc jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. C'est un pari, il est risqué, mais ça vaut le coup de le tenter.
Et Arthur Asquin pour C'est déjà demain.
Je vous offre le petit-déj dans un café à Stockholm et qui est géré par une IA.
Ah!
Voilà, c'est l'IA le patron.
Bien géré ou
bon, bah, vous allez voir ça.
Il est 6h30. Des limites, à tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h41 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
C'est une étude qu'on vous dévoile en exclusivité sur RMC ce matin. Étude BPCE qui dresse un portrait pour le moins contradictoire des motards français. Ils se disent prudents, conscients de leur vulnérabilité, mais leur comportement au quotidien raconte une autre histoire.
Bonjour Jean-Marc Bellotti.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous dans le studio d'RMC. Vous êtes coordinateur de la Fédération des motards en colère de Paris et de sa petite couronne. Alors, vitesse, téléphone, interfile, les chiffres sont sans appel. Et en toile de fond, il y a une actualité dramatique. On peut le rappeler quand même, la mortalité des deux roues qui a bondi de 15% au mois d'avril. L'étude dit que les motards se croient plus prudents que les automobilistes.
Alors oui, en général, les motards sont plus prudents parce que ils sont bien conscients que ils n'ont pas de carrosserie autour d'eux. Par ailleurs, les motards à 95%, voire même un peu plus, ont plusieurs permis. Contrairement aux automobilistes qui vont avoir un permis voiture, ne sont pas la majorité à avoir aussi un permis de moto. Nous, on a les deux.
Il faut pas oublier que le motard est automobiliste aussi.
Il est aussi automobiliste, à 95%. Donc, le motard sait comment va se comporter une voiture. Et sa moto, et l'automobiliste pas forcément. Voilà. Alors après, effectivement, un motard, c'est pas différent des autres. Hein. Il faut que ça fasse attention. Les excès de vitesse, oui, il y en a malheureusement comme partout chez les automobilistes.
Un tiers selon l'étude.
Un tiers, oui, c'est possible. Oui, oui, oui.
Alors. Ça vous semble pas minimisé comme chiffre?
On en souriait avec nos auditeurs ce matin, 30% de motards qui disent dépasser la limitation de vitesse, on a tous trouvé que c'était un peu bas.
Oui, alors après ça dépend des conditions, mais bon, c'est pas bien. On va pas dire que c'est bien de dépasser la limitation de vitesse. Oui, effectivement, il faut être prudent. Alors, notamment, alors là, vous me disiez qu'en février, justement, en avril.
En avril, ouais.
Avril, les chiffres
avaient bondi.
Je suis surpris parce qu'on nous a dit que le contrôle technique allait agir pour la sécurité des usagers de roues motorisées.
Vous revenez sur le contrôle technique.
Il est installé depuis deux ans, le contrôle technique, donc ça marche
plutôt
pas.
Plutôt suivi, bien d'accord. Les motards quand on regarde l'étude,
Non, il est pas vraiment suivi, non.
Ou alors, c'est pas ce que dit l'étude.
Ah, mais l'étude, elle a dû faire une interrogation sur des motards d'élevage ou alors on fréquente pas le même milieu de motards. Mais.
Motards d'élevage.
Parce que nous, le boycott, il fonctionne très bien et le contrôle technique, c'est le sujet majeur de discussion des motards.
Entre motards.
Et alors, justement, on va accueillir David au 32-16 qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour, David.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors, David, vous êtes motard depuis que vous avez 18 ans et vous, le contrôle technique, c'est non, hein?
Ah non, je l'ai passé. Hein.
Vous l'avez passé.
Il y a écrit OK, pardon, moi je lisais non aussi, pardon.
Non, je l'ai passé. J'ai râlé, j'ai pesté, mais bon, après, en ce qui me concerne, c'était juste une formalité. Hein. Moi, ma moto, elle était tout le temps entretenue. Même celui qui m'a fait passer le contrôle, il m'a rendu la moto et il m'a dit qu'est-ce que je trouve à ta moto.
C'est un motard d'élevage, David, Jean-Marc Bellotti.
Non, mais après, je suis super maniaque. Après, je suis pas le motard. Comme j'ai pu en entendre tout à l'heure, où je vais travailler en moto, je vais faire les courses en moto. Non, moi c'est fini ça. Avant je le faisais et c'est trop dangereux. Quand on va en ville, c'est trop dangereux. Ça débouche de tous les côtés. Les gens ils font pas attention en voiture. Alors ça arrive. Hein. Moi-même, lorsque je suis en voiture ou même en poids lourd, parce que je conduis les poids lourds, ça peut m'arriver de faire des petites erreurs. Hein. Ça arrive. Hein. Et en ville, je suis pas tranquille. Donc dès que je peux éviter de faire de la ville, je le fais. Et lorsque je fais de la moto, c'est uniquement en loisir. On part dans l'arrière-pays. Et certes, oui, c'est vrai que dans l'arrière-pays, la réglementation de la vitesse, c'est moins pointu qu'en ville. Et puis, on sait où il y a les radars. Et puis voilà, on fait plus attention. Par contre, dès qu'on débarque dans des villages ou dans des villes, on coupe tout. Hein, on roule à 20, 30 et voilà, on laisse pisser. Mais en ville, franchement, c'est super dangereux.
On l'entend, Jean-Marc Bellotti, avec le témoignage de David. David, il fait partie des 8 motards sur 10 qui se sentent vulnérables quand ils sont sur leur moto. Ça se dégrade, la cohabitation, elle est plus difficile avec les autres usagers de la route?
Ça dépend où, non. Honnêtement, moi, j'ai 66 ans et ça fait 52 ans que je fais de la moto. Et j'en fais toujours, et je vais travailler avec, et je fais de la moto très régulièrement. Enfin, déjà, j'ai pas de voiture en plus, donc ça fait longtemps que j'ai plus de voiture. Donc oui, on est beaucoup plus vulnérable, mais il faut justement l'intégrer ça. Puisqu'on est plus vulnérable, on fait attention. Et je pense que notamment, alors moi je parle de Paris puisque je connais bien un peu toute la France, je roule un peu dans toute la France, mais je vois dans les grandes villes notamment la cohabitation, elle se fait plutôt bien. Notamment à Paris, ça se fait très très bien. Le périphérique, les gens se poussent, nous laissent passer. Non, je pense qu'il y a une très bonne cohabitation.
Justement, l'interfile par exemple, le fait de remonter des fils ininterrompus de voitures, oui, souvent à l'arrêt ou au ralenti, les motards, 80% pratiquent l'interfile. Ça va avec la moto, mais ce qui est intéressant, c'est que 74% des sondés la jugent quand même dangereuse.
Évidemment, c'est dangereux, mais c'est moins dangereux que si on roulait derrière les voitures. Parce qu'en cas de fort freinage, on serait pris en sandwich entre les deux voitures, celle de devant et celle de derrière. Et je précise que la circulation interfile est légalisée. On s'est battu longtemps.
C'est autorisé, oui, bien sûr.
Voilà, c'est autorisé. On s'est battu longtemps
pour ça. Les deux voies rapides.
Et les arguments, justement, de sécurité ont été entendus par le gouvernement. Donc, il est beaucoup plus sûr de circuler dans la file, en interfile, pardon, que dans la file. Pour autant, ça se pratique pas n'importe comment. Évidemment, quand on voit des décérébrés qui roulent à 90 km/h entre des voitures qui roulent à 20 km/h, ces gens-là sont des suicidaires. Mais heureusement, c'est pas la majorité. Et globalement, on va reprendre les chiffres du périph. Hein, le périphérique, il y a très très peu d'accidents graves sur le périphérique. Hein. Et pourtant, il y a 1 300 000 véhicules par jour. Hein,
Ne soyez pas alarmiste, ça se passe plutôt bien, vous dites.
Moi, je trouve que ça se passe pas mal.
C'est important de le dire aussi.
Je prends le périphérique tous les jours, et même en région, hein, ça se passe plutôt bien. Alors, en région, ils ont peut-être moins l'habitude, dans certaines villes, de voir des motos arriver entre les files. Donc, moi, je le remarque, les gens se poussent un peu moins, ils laissent un peu moins de place. Mais moi, ça se passe plutôt bien. Et si l'usager de deux roues motorisées, parce qu'on parle de motards, mais aussi surtout les scooteristes, si l'usager de deux roues motorisées arrive à la bonne vitesse, avec le bon comportement, il n'y a pas de raison qu'il se passe grand-chose, en fait.
Alors, il y a la question de la vitesse, il y a la question aussi du téléphone au guidon. C'est un chiffre qui nous a étonnés. Il y a un motard sur deux qui admet utiliser le téléphone au guidon.
Alors ça, faut m'expliquer, parce que moi, je suis motard, je dis depuis très longtemps, je ne sais pas le faire, ça. Sur un scooter, oui, et on le voit dans Paris.
Mais la question, c'est deux roues.
À deux roues, d'accord, parce que les motards, non. Un motard, ça une poignée d'embrayage à gauche. Alors bon, maintenant, il y a moto automatique, effectivement. Mais utiliser le téléphone, ça c'est compliqué en deux roues motorisées. À scooter, c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, je suis d'accord, on voit de plus en plus de gens à scooter qui utilisent des téléphones portables. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'on fait assez la chasse aux automobilistes qui utilisent les téléphones portables et on voit que c'est extrêmement dangereux pour nous, usagers de deux roues motorisées, parce qu'on voit, on repère tout de suite une voiture.
Mais oui. La voiture, on le voit aussi, elle va dans tous les sens.
Mais on le repère tout de suite. Utiliser un téléphone portable avec un deux roues motorisé, c'est suicidaire.
Merci Jean-Marc Bellotti. Merci beaucoup d'être venu détailler avec nous les résultats de cette étude et accueillir aussi nos auditeurs qui sont nombreux depuis ce matin. Apparemment, les motards. Sauvage ou d'élevage, écoutez RMC. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère de Paris et de sa petite couronne. Merci d'être venu dans notre studio, 6h49. Les grands titres de l'actualité, Élise.
Le gouvernement avait promis une loi d'urgence avant l'été pour répondre à la crise agricole. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée et les débats s'annoncent animés. À Paris, nouveau rebondissement dans le scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire. L'un des animateurs mis en examen avait déjà été placé en garde à vue en 2024 pour des faits commis dans un autre établissement. Et puis Flavie Flamand, sidérée et sans voix face à la réponse de Patrick Bruel à ses accusations de viol. Le chanteur désormais visé par au moins 12 plaintes actuellement étudiées par la justice.
Il est 6h49. Et on va accueillir Mallory au 32-16 depuis le Tarn ce matin avant de passer à la bande, mais ça va vous plaire Virginie, Mallory, qui n'a pas dormi de la nuit. Racontez-nous Mallory.
J'ai passé une sacrée nuit depuis 2h du matin debout à encourager les Spurs sur un match vraiment dantesque, quoi, parce que jusqu'à la dernière minute 30.
Avec prolongation après, et tout, hein.
Deux prolongations. À chaque carton, on était à égalité. Enfin, c'était un truc de fou. J'étais toute seule dans mon salon. Je dois avouer que on avait l'impression d'être plusieurs.
La victoire des Spurs pour ce match 1. Et Mallory, je suis très content de vous entendre parce qu'on voit vos messages depuis 4h30 ce matin. En train de suivre Victor Wembanyama. On a attendu la fin du match pour ne pas vous embêter non plus.
Non, quel supporter. C'était vraiment chouette. C'était vraiment... Oui, je dois avouer que c'est mon chéri qui m'a donné la fièvre. Au départ, j'étais pas spécialement une aficionados du basket. Mais j'avoue que quand on a quelqu'un à côté de soi qui est assez passionné, qui vous explique bien les choses, franchement, ça met du baume au cœur et ça déclenche une passion, en fait.
Mallory, c'est que le match 1, on se rappelle sur les autres?
C'est ça. Allez, carrément.
On fait comme ça. Merci en tout cas de vos messages cette nuit, Mallory. Sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Et Virginie, on va revenir évidemment dans les journaux d'RMC hein, sur cette victoire.
À 8h.
Mbanyama, ça va tout droit, mais ça y va.
Mais avant ça, c'est l'heure de la causerie avec Virginie Fulpin. Et on va parler foot, on va parler Neymar, qui sera bien à la Coupe du Monde cet été. C'est une petite sensation, Carlo Ancelotti a choisi de convoquer l'ancien attaquant du PSG avec le Brésil.
Ouais, c'est un pari qui fait entrer la Coupe du Monde dans une autre dimension. Au Brésil, une conférence de presse du sélectionneur avant une Coupe du Monde, c'est déjà tout un poème. Une salle comble, tout le monde habillé aux couleurs du pays. Je ne sais pas si vous imaginez Didier Deschamps en conférence de presse avec tout le monde habillé en bleu, blanc, rouge autour. Ça n'existe pas au Brésil, oui. Et hier soir, il n'y avait qu'une question. Carlo Ancelotti allait-il prononcer le nom de Neymar ?
Neymar Junior Santos.
Ah, la joie derrière.
Alors, vous entendez déjà la joie. Pour vous donner une idée plus précise encore de ce que ça donne, il y a eu des rassemblements dans les rues au Brésil pour célébrer l'événement.
Alors sur RMC Story, on le voit, hein, les Brésiliens en liesse comme s'ils avaient
gagné la Coupe du Monde, ouais, ce qui n'est pas encore le cas.
C'était qualifié pour la finale, j'allais dire. Mais...
voilà. Bon, ça nous permet de comprendre ce qu'est quand même le phénomène Neymar au Brésil.
Neymar est en fin de carrière quand même, on va le rappeler. C'est si important que ça qu'il soit sélectionné ?
On parle pas d'un joueur comme les autres. Déjà, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne. Hein. 79 buts, on parle d'un attaquant qui va disputer sa 4e Coupe du Monde. La première, c'était en 2014, c'était au Brésil. C'était la folie, c'était blessé. Et le camp de base de l'équipe brésilienne était assiégé par des milliers de supporters, des hélicoptères qui survolaient. C'était absolument fou. C'est un autre monde, Neymar. Et puis depuis l'an dernier, il est de retour au pays, dans son club formateur de Santos, donc c'est le retour de l'enfant prodigue. Beaucoup le voient comme celui qui peut emmener les Brésiliens vers leur 6e étoile, alors qu'on le rappelle, il n'a jamais remporté de Coupe du Monde. La dernière victoire du Brésil, c'était en 2002.
Mais sa présence, ça reste quand même un pari risqué, Virginie.
Bah, ça peut être tout ou rien. Il peut éclabousser la compétition de son talent, parce que c'est un des seuls à pouvoir faire la différence sur un seul geste. Mais il peut aussi traverser la Coupe du Monde comme un fantôme. Donc oui, c'est un pari. En plus, il a une personnalité clivante, un gros égo à gérer dans le vestiaire. C'est aussi un pari. Surtout s'il est remplaçant, bon courage aux autres. Ça fait presque 3 ans qu'il n'a pas joué dans la sélection brésilienne, on n'a aucune idée de ce que ça peut donner. Mais franchement, ça vaut le coup de le tenter, ce pari. Le Brésil n'a peut-être jamais été aussi peu attendu avant une Coupe du Monde. Lui, il peut changer ça, il peut amener de la lumière. Puis quand on aime le football, on a envie de voir un joueur comme Neymar faire une dernière danse. On a besoin de stars comme ça dans une Coupe du Monde.
Bien d'accord. Merci Virginie Fulpin, la causerie tous les matins sur RMC, il est 6h54.
Arthur Asquin, c'est déjà demain. Vous nous emmenez ce matin dans un café un peu particulier en Suède, à Stockholm.
Ouais, latte, macchiato, cappuccino, avocado toast, déco minimaliste en apparence. Rien d'extraordinaire, tout est bobo. Sauf qu'ici, c'est une intelligence artificielle baptisée Mona qui tient les rênes. Alors comment ça marche ? Les clients peuvent commander et échanger directement avec Mona via un téléphone. Derrière le comptoir, il y a un vrai barista qui prépare les cafés, mais c'est bien Mona qui a tout mis en place. Autorisation administrative, menu, commande auprès des fournisseurs et même le recrutement. Elle a posté des offres d'emploi en ligne, conduit les entretiens elle-même et choisit les employés. Le café voit quand même passer une petite centaine de clients par jour.
Non mais attendez, ça veut dire qu'il y a des vrais baristas, il y a des vrais serveurs, mais la patronne c'est l'IA, quoi, si je me souviens bien.
Exactement. Mais bon, il y a quand même quelques problèmes.
Bien là, au quotidien.
Il y a quand même quelques problèmes. Mona envoie des messages en pleine nuit aux salariés pour leur rappeler de sortir le saumon du congélo. Elle ignore les demandes de congé. Elle demande parfois aux employés d'avancer certains frais. Le barista a baptisé une étagère du café le mur de la honte, un coin entier submergé par les commandes inutiles passées par sa patronne. 10 litres d'huile d'olive, 15 kilos de tomates en conserve, 9 litres de lait de coco. La start-up américaine à l'origine du projet le reconnaît. Bon, le point faible de Mona pour l'instant, c'est la mémoire. Ouais. Non, le management, ça va. C'est surtout la mémoire et bon, les erreurs, quoi. Mais elle assume la démarche. L'idée, c'est précisément de tester ce qui se passe quand une IA devient l'employeur d'un être humain avant que ça devienne un jour.
Vous savez, quand on est entre collègues et qu'on râle sur son patron à la machine à café, là, le barista, il a l'air tout seul dans son truc et en train de râler sur une IA dans son coin, faire son panneau des erreurs.
Alors, il faut faire gaffe.
Tu crois qu'il y a des micros dans les machines à café ?
Mais la prochaine étape, c'est la machine qui fera elle-même les cafés.
Ouais, voilà, il y a déjà des machines à café, mais. Merci Arthur Asquin. C'est déjà demain. Et Apolline de Malherbe a terminé son café à Pau. Ça va?
Oui, j'ai pris un petit café, mais j'ai toujours un petit thermos quand même en plus. Ah bah non, il faut pour la suite de la matinale.
Pour un ravitaillement en route.
Exactement. Bonjour à tous. Dans un instant, je prends le relais. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui est mon invité à 8h30 dans le face-à-face. Depuis hier, il défend son texte au Sénat sur la sécurité du quotidien. On en parle très souvent sur RMC. Les rodéos, les rave parties, la consommation de protoxyde d'azote. Est-ce que vous avez constaté ces violences du quotidien? Est-ce que vous pensez vraiment que l'État peut lutter? Venez nous raconter aussi ce que vous vivez dans le quotidien. Je vous attends au 3216. Et vos messages sur le WhatsApp d'RMC 06 12 424 424. Vos témoignages et vos questions pour le ministre de l'Intérieur.
5-7. Le Morning RMC.